Chapitre 40. Il est 23h20 et le parking devant l'école L'île Kurka est désert. Une fine brise se fraye un chemin depuis la rue à travers les buissons jusqu'au porte-vélo. Ali est assis sur l'escalier de secours de la salle de sport. Chaque fois qu'il bouge, les marches métalliques émettent des grincements étouffés. Un sac en plastique vide gonflé d'air virevolte le long de la façade en briques rouges. Son vélo gît sur le bitume en dessous. De l'herbe s'est coincée dans le garde-boue avant. Ali sort son portable pour demander à Martin si le sonneur l'a attrapé lorsqu'il entend le raclement rythmé des pédales contre le garde-chaîne cabossé du vélo de son ami. Il descend l'escalier, relève son vélo et pose la pelle sur le guidon. Martin apparaît sur le parking, passe sous un réverbère et le rejoint, un grand sourire aux lèvres. Ali et Martin sont en dernière année au collège ici. Et cet automne, ils entreront au lycée à Enköping. Ils descendent à vélo jusqu'au carrefour, traversent le quartier résidentiel et tournent à gauche sur Kirkvägen. La tête du détecteur de métaux dépasse du sac à dos de Martin. Ils sortent souvent en cachette le soir pour partir à la chasse au trésor. Ça a commencé lorsqu'ils avaient 11 ans et qu'ils ont appris que l'argenterie de l'église qui avait été volée en 1858 n'avait jamais été retrouvée. Leur théorie est que le sonneur de cloche l'avait enterrée après avoir prétendu qu'elle avait été volée, mais était mort avant de pouvoir la récupérer. Ali et Martin ont commencé par fouiller les champs autour de l'église et les bosquets qui s'étendent comme des îlots dans la forêt environnante. Ce printemps, ils se sont rapprochés du cimetière tout en restant à l'extérieur, là où les suicidés et les criminels étaient autrefois enterrés. Ils ne l'ont jamais évoqué sérieusement, mais emportés par leur plaisanterie, ils ont fini par franchir le mur pour pénétrer dans l'enceinte du cimetière. Les tombes dans l'église, appartenant à la ferme d'Eka, propriété des parents du roi Gustave Vasa, ils ont commencé à fantasmer sur un immense trésor. « Si on devient hyper riche, j'achèterai la paire de Lil Nas X », dit Ali en pédalant encore plus vite. « Et moi, je sortirai avec Cardi B !» lui crie Martin. Il rit et se remet à pédaler côte à côte. L'obscurité s'installe sur le paysage lorsqu'ils laissent derrière eux les dernières villas. On n'entend bientôt plus que leur respiration et le claquement régulier du vélo de Martin. Ils s'arrêtent au carrefour et regardent une grosse voiture s'approcher. C'est un camion avec une remorque. Les buissons qui bordent la route se teintent d'une lumière blanche et sèche et le sol tremble sur son passage. La lumière s'éloigne, un nuage de poussière se soulève autour d'eux, leurs cheveux volent devant leur visage. Entre les arbres à droite, ils devinent une volée de chouka agitée au-dessus du toit noir de l'église. On dirait des écailles de goudron qui se détachent et tourbillonnent au gré du vent. Ali et Martin se remettent à pédaler, traversent la route et roulent silencieusement jusqu'au parking triangulaire. Le double portail en fer est ouvert sur le cimetière. Ils s'arrêtent et guident leur vélo dans les sillons creusés par les roues des voitures sur la bande d'herbe à l'extérieur du muret, le long du champ. Le silence est simplement brisé par les cris plaintifs des chouka. Lorsqu'ils sont hors de vue de la route principale, ils lâchent leur vélo et les laissent tomber dans l'herbe. Le réveil d'Ali sonne. Ils marchent le long du muret recouvert de mousse jusqu'à un creux dans le sol avant d'allumer le détecteur de métaux et de commencer à balayer le terrain. La volée d'oiseaux tourne maintenant autour du clocher sombre, puis retourne se poser sur le toit de l'église. Le crépitement du détecteur s'arrête soudain. C'est Martin qui l'a éteint. Il se baisse rapidement et pointe du doigt le cimetière. Un pick-up est immobilisé, moteur allumé, sur le chemin caillouteux devant le clocher. « Le gardien de l'église !» murmure Martin. « Il nous a vus ? Je sais pas, je pense pas. » Un crissement mécanique et strident transperce le silence, doublé d'un ronflement. Les branches d'un arbre craquent. Le ronflement continue un moment, puis le silence retombe. Les garçons se regardent dans le noir, ne sachant pas s'ils doivent rester cachés ou courir vers leur vélo. Quelques bruits sourds retentissent encore, suivis d'un claquement. Puis une portière se referme, et le pick-up s'éloigne en faisant crisser ses pneus. Il reste quelques secondes immobile avant de regarder par-dessus le mur. Le cimetière est de nouveau silencieux. Les girouettes, situées sur les côtés de l'église, émettent un léger grincement. Elles ont la forme d'une tête de dragon avec la langue qui dépasse. Martin sourit avec enthousiasme à Ali et s'apprête à remettre le détecteur en marche lorsqu'un gémissement guttural leur parvient. « Putain, c'était quoi ?» murmure Ali. « On aurait dit un cerf blessé ou un truc comme ça. Quoi ? Faut qu'on aille voir !» Ils laissent leur pelle et le détecteur dans l'herbe grimpent par-dessus le muret et sautent sur la pelouse du cimetière. Ils se glissent ensuite en silence entre les tombes, passent sous un énorme chêne, s'immobilisent et écoutent l'obscurité. On dirait des bruits de coups dans le clocher. Quelqu'un qui essaierait de pousser la porte. Ils continuent d'avancer, tandis que les trois têtes de dragon grincent et tournent sur le toit comme si elles avaient repéré au même moment les deux enfants en contrebas. Les bruits et les gémissements proviennent de l'intérieur du clocher. La porte est fermée, mais une profonde rainure est visible dans le cadre supérieur de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmure Martin. Ali s'approche de la porte et frappe. Les choucas reprennent leur croissement au-dessus de la cime des arbres. Il tend une main tremblante, appuie sur la poignée, ouvre la porte et est assailli par une odeur chimique âcre. « Eh oh !» dit-il d'une voix faible. « Viens, on se barre !» chuchote Martin. Ali allume la lampe torche de son portable et éclaire l'intérieur. L'escalier en bois est mouillé. On dirait une sorte de mucus trié de rouge qui coule le long des marches. « Putain, c'est quoi ?» murmure-t-il. Des coups sourds retentissent à nouveau et Ali lève les yeux. À plusieurs mètres au-dessus de lui, pend un cocon géant fait de draps, de plastique gris et de rubans adhésifs. Il se balance d'avant en arrière et à travers une déchirure s'échappe un liquide grumeleux. Ali reçoit une goutte sur la main, hurle de douleur, s'essuie sur son pantalon, recule et entre en collision avec Martin.
Juna roule lentement sur la route de Grider, à travers le quartier de bâtiments en briques rouges, contourne l'Office national de médecine légale avec ses auvents bleus décolorés par le soleil, et s'engage dans le parking. C'est avec une boule au ventre qu'ils ont analysé le matin même le déroulement des opérations qui ont suivi l'arrivée de la dernière figurine en étain. Aurait-il pu mieux faire? Et comment continuer à avancer? L'oxygène commence à leur manquer à tous. Ils ont dû admettre qu'ils n'avaient encore rien. Absolument rien à se mettre sous la dent concernant le tueur. Manvir a de nouveau marmonné un « mon Dieu ». Et il est allé se poster dans son coin. Le visage de Greta est devenu gris, et des rides se sont creusées autour de sa bouche. Peter a commencé à se ronger les ongles et les yeux de Saga ont pris une teinte sombre et dangereuse. Une sorte d'apathie s'est abattue sur eux. Les mains sur le volant, Juna essaie de se souvenir de ce à quoi il a pensé en quittant le canapé lit de Layla. Il sait qu'il a eu une intuition concernant le tueur, mais il n'arrive pas à se rappeler si c'était important ou même approprié. Il a regardé dans son portable s'il avait écrit un message ou une note. Il a vidé ses poches et son portefeuille, mais nulle part il n'a trouvé de trace de cette idée qui lui avait traversé l'esprit. Juna sort de la voiture, la verrouille, et passe devant une Porsche Taycan blanche. Elle est garée en diagonale sur trois places de parking. Un câble de recharge gît dans l'herbe, relié à une rallonge qui se fraye un chemin à travers les buissons jusqu'à une fenêtre ouverte. Des meubles d'extérieur en plastique blanc sont installés à côté de la rampe en béton de l'entrée. L'aiguille et Chaya Abduella sont assis et boivent un café dans des tasses en métal émaillé. L'aiguille est professeur au département de médecine légale. et Chaya est son assistante. Une nouvelle voiture, dit Juna sans sourire. Les combustibles fossiles sont des combustibles fossiles. Je viens de le comprendre, répond l'aiguille.
Jolis ongles,
s'exclame Chaya. Merci.
Et joli phare à paupières,
ajoute-t-elle en faisant un signe vers l'hématome au-dessus de l'œil de Juna. Je sais. J'ai fait du combat au corps à corps avec. Et il s'interrompt lorsque Saga surgit sur sa moto noire. Les deux cylindres de près de 2000 cm3 sonnent comme des tirs automatiques entre les murs de briques. Elle contourne la voiture de l'aiguille, puis s'arrête, coupe le moteur, enlève son casque et l'accroche au guidon. « Docteur Abduella, » dit Juna en faisant un geste vers Chaya.
« Saga Bauer, je travaille avec Juna à la NOA. »
se présente-t-elle en lui tendant la main.
« Appelez-moi Chaya, »
répond celle-ci en se levant de sa chaise. L'aiguille et elle vident leur tasse sur le parterre de fleurs et gravissent les marches qui mènent à la porte bleue.
« Ça va être dur, »
murmure Saga. « Il faut que tu te prépares au fait qu'il puisse s'agir de Werner. » la prévient Juna.
« Oui, »
soupire-t-elle. « On entre. »
« Maintenant, on a 5 morts. Ça signifie qu'il ne reste plus que 4 balles. »
dit Saga en regardant Juna d'un air grave.
« Peut-être que tu devrais quand même envisager une protection policière. »
« Non. » sourit-il.
« Tout ce que le tueur a annoncé jusqu'à présent s'est révélé exact.
Dans ce cas, on devrait peut-être se demander pourquoi tu es la seule à pouvoir l'arrêter. »
« Réflexion intéressante. Pourquoi faut-il que ce soit moi ? Je n'y avais pas pensé de cette façon. »
« On en parlera avec les autres cet après-midi. »
Ils entrent, passent devant la réception, longent le couloir et se laissent guider par les notes de musique hard rock jusqu'aux salles d'autopsie.
Juna ouvre la première porte, laisse passer Saga et la suit dans la vive lumière blanche. La musique s'arrête net lorsque Chaya débranche la prise du lecteur de cassette portatif.
« Merci, » dit Juna.
« And we walk the earth with our heads held high. »
Continue de chantonner l'aiguille.
« S'il te plaît. »
L'interrompt doucement Juna.
« Désolé. »
s'excuse-t-il en regardant Saga.
« C'est pas grave. »
répond-elle d'un air résolu.
C'est Fripp qui nous a envoyé une compilation,
explique Chaya en enfilant un tablier en plastique. Sur une longue table en inox, gisent plusieurs milliers de fragments d'eau de toutes sortes, allant du petit éclat à un crâne d'élan entier. On était en train de trier les eaux trouvées lors de l'assèchement du Sanda Keret quand on a reçu la livraison d'Enkeping.
Il se trouve dans la salle 2,
dit Chaya en faisant un geste vers une porte adjacente.
« C'est donc Werner ?»
demande Saga, livide.
« Oui, »
répond l'aiguille.
« Je suis désolé, »
dit Chaya en fixant les cordons du masque derrière ses oreilles sous son hijab rose.
« Merci, »
murmure Saga.
« Je ne vous le propose pas tout le temps, mais cette fois-ci je pense que c'est nécessaire. »
assure l'aiguille en tendant une boîte bleue de Vaporub.
Nous avons déjà documenté les odeurs qui, comme les fois précédentes, proviennent de la décomposition de l'hydroxyde de sodium dans le corps.
Ok.
Acquiesce Juna en mettant un peu de pommade sous le nez, puis il passe la boîte à Saga. Ils suivent l'aiguille et Chaya dans l'autre pièce. Malgré le menthol qui leur pique le nez et leur brûle les yeux, l'odeur est bien identifiable. Les néons sont allumés au-dessus de la grande table d'autopsie, avec réserve et double évier. Des gouttes s'écoulent de l'embouchure du tuyau de rinçage. Une passoire provenant d'un récipient de collecte a été placée sur une toile en plastique. Une raclette de douche est appuyée contre le mur, à côté du siphon de sol.
Juste quelques mots,
dit l'aiguille en les arrêtant avant qu'ils n'avancent. La tête et les deux bras se sont détachés du corps. Vous ne pourrez pas l'identifier visuellement. La décomposition s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il arrive ici et qu'on puisse éliminer la base corrosive. On comprend, dit Juna. Il était encore vivant quand on l'a trouvé. Mais il était déjà dans un tel état qu'il n'était probablement pas conscient.
Espérons-le,
murmure Shaya.